Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le scrutin est certes prévu dans un an, mais l'échéance est déjà dans toutes les têtes, car nombreux sont les Ivoiriens et les observateurs qui redoutent que le pays ne sombre une fois de plus dans une crise. En tout cas, pour l'instant, les poids lourds politiques n'ont pas dévoilé leur jeu, à l'exception de Guillaume Soro. C'est désormais officiel depuis samedi. L'ancien président de l'Assemblée nationale est candidat, confirmant ainsi son divorce avec le président Alassane Ouattara. Mais concrètement, quelles sont ses chances de remporter le scrutin? Quel est le poids aujourd'hui de Guillaume Soro sur la scène politique ivoirienne? On a envie de vous entendre ce matin, donc appelez-nous. Venez commenter l'actualité politique en Côte d'Ivoire, 33 9 693 693 70 et continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, entre 450 et 550 commentaires postés. C'est vous dire l'intérêt que suscite l'annonce de la candidature de Guillaume Soro. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Christophe Jousset du service des sports est à mes côtés. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan, bonjour
à tous. On commence avec vous ce matin, après l'exploit du marathonien kényan Eliud Kipchoge. Plusieurs auditeurs nous ont appelés pour poser quasiment la même question. Donc c'est Luc qui se fait le porte-parole d'entre eux. Bonjour Luc.
Bonjour Juan Gomez et bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes à Abomey-Calavi au Bénin, nous vous écoutons.
Juan Gomez, le Kenyan Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures le week-end dernier à Vienne. Quelles sont les conditions qui ont favorisé une telle performance et pourquoi cette performance n'a pas été homologuée?
42 kilomètres en 1h59 minutes et 40 secondes, Christophe Jousset. Comment a-t-il réussi cette prouesse de passer sous la barre des 2 heures dans un marathon?
Mais d'abord, il faut souligner que la première condition pour réussir ça, cet exploit-là, c'est de choisir le bon homme, le bon coureur.
Oui.
Parce qu'en fait, Eliud Kipchoge, c'est le meilleur marathonien de ces dernières années.
C'était lui qui détenait le précédent record mondial.
Voilà, c'est lui qui a le vrai record du monde, celui qui est homologué.
Oui, on va y revenir dans un instant.
Voilà, il avait couru le l'an dernier à Berlin en 2 heures 1 minute et 39 secondes. Donc là, il a fait 2 heures de moins dans une opération.
Non, 2 minutes de moins.
2 minutes pardon.
Ce serait 2 heures de moins.
C'est pour plus tard. dans une opération avec des aspects commerciaux, on va peut-être en reparler, mais surtout toutes les conditions de la performance ont été réunies, c'est-à-dire que par exemple, contrairement à un vrai marathon, l'heure de la course se décide au mieux des intérêts de Eliud Kipchoge. Donc le parcours a été choisi pour être extrêmement plat. Il n'y a pas de feuilles mortes par exemple, toutes les imperfections sont effacées. Il est escorté aussi, ça c'est très important, par des lièvres, c'est-à-dire des hommes de très haut niveau, hein, c'est vraiment des coureurs de fond reconnus. Bernard Lagat, c'est une sommité, l'Américain d'origine kényane sur les courses de fond. Il y avait aussi Centrovitz, les frères Ingebrigtsen, tout ça c'est des grands noms des courses de fond. Et ces 41 coureurs qui étaient là pour épauler sa tentative pour un marathon en moins de 2 heures se relayaient. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas l'intégralité de la distance, contrairement à ce qui se passe dans un vrai marathon, où là on est dans une vraie course. Il faisait chacun en gros 5 kilomètres.
Et c'était pour lui permettre de garder le bon tempo tout au long du marathon?
Alors, plusieurs intérêts à ça. D'abord, lièvre, oui, c'est pour assurer, l'aider à tenir l'allure, mais aussi l'abriter du vent.
Ah.
Et donc, il avait... À chaque moment de la course, il était escorté par 7 coureurs qui étaient disposés, alors 5 devant lui, en flèche inversée, de façon à ce que...
Donc en V.
Voilà,
en V. Ils étaient positionnés en V.
Et les coureurs qui étaient devant lui, en gros, prenaient le vent. Et lui avait le minimum d'effets possibles du vent.
Et visiblement, il portait également des chaussures qu'on ne trouve pas sur le marché.
Ça, c'est très controversé aussi parce qu'il y aurait à l'intérieur de ces chaussures des lames de carbone. Mm-hmm. Donc, une aide technologique à cette performance.
Et malgré tout, ça reste un exploit ou pas, selon vous?
Mais bien sûr, c'est un exploit parce que on a quand même un homme qui a couru la distance 42 km 195 en moins de 2 heures. Donc, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, marquera l'histoire de la course à pied.
Alors, expliquez-nous pourquoi ce record ne sera pas homologué par la Fédération internationale d'athlétisme.
Eh bien, parce que d'abord, pour les raisons qu'on vient de dire, il n'y a pas de concurrent.
D'accord.
Il est l'homme qui est seul,
qui seul à courir.
Seul et aidé par ses coureurs de très haut niveau qui l'abritent du vent. Il y a devant, en plus, une voiture qui projette en lui pendant la course en permanence avec un laser vert.
Alors ça, je n'ai pas compris.
Alors c'est très simple, la voiture matérialise visuellement sur la chaussée, devant le coureur, la ligne où il doit se trouver à tout moment pour un marathon au bout du compte en moins de 2 heures.
Donc il doit suivre finalement ce laser vert.
S'il a de l'avance, il est en avance sur un marathon en moins de 2 heures. S'il a du retard, et c'est ce qui s'était produit il y a 2 ans, la première tentative pour un marathon en moins de 2 heures, il avait loupé les 2 heures pour 25 secondes. Donc il n'avait pas réussi à suivre l'allure prédéterminée.
Luc, a-t-on été clair? Êtes-vous satisfait de nos réponses?
Je suis pleinement satisfait, Juan Gomez.
Eh bien, merci. On remercie surtout Christophe Jousset du service des sports. À bientôt, Christophe.
À bientôt.
10h17 à Paris. Appelez-nous. Toutes vos questions sont les bienvenues au standard 33 9 693 693 70. Bonjour, Marius.
Bonjour, monsieur Juan Gomez. J'ai profité pour dire bonjour à Arnaud Pontus.
Arnaud Pontus, évidemment, qui présente la matinale RFI, qui est absent ces jours-ci, on le salue s'il nous écoute, au fond de son lit. Marius, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions, vous, sur l'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie.
Oui, tout à fait, monsieur Juan. En réaction à l'offensive turque au nord-est de la Syrie, les Kurdes syriens ont annoncé avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière turque.
Oui.
Alors, je voudrais savoir quels sont les détails de l'accord entre ces deux forces. Ensuite, est-ce que le pouvoir de Damas peut-il espérer récupérer le territoire kurde qu'ils avaient perdu dans le passé?
Bonne question que vous posez. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, vous publiez aux éditions Actes Sud dans la tête de Bachar Assad. Marius, replantait très vite le décor. Aujourd'hui, les forces kurdes, depuis 4 jours maintenant, sont obligées de faire face à cette offensive militaire lancée par la Turquie. Du coup, ils ont décidé de faire alliance avec le régime de Bachar el-Assad. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le contexte régional, c'est une alliance de circonstances.
Oui, bien sûr, c'est une alliance de circonstances. Les Kurdes, pour rappeler historiquement, ont été les grands perdants suite à la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman. Ils n'ont pas eu un État-nation et ils sont divisés au niveau démographique entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, où ils sont des minorités dans les 4 pays. Ils ont souvent réclamé des droits culturels et politiques et dans le cas syrien, comme dans notre cas turc d'ailleurs, ils ont toujours été réprimés et la plupart de leurs droits non respectés.
Et les Kurdes, Kurdes n'avaient pas d'autre choix que d'accepter le retour de l'armée syrienne pour assurer leur protection.
Oui. Maintenant, dans le cas actuel des choses, après qu'ils ont été abandonnés par les Américains, puisque l'Europe n'arrive pas à réagir d'une manière ferme, et la Turquie ne souhaite pas du tout les voir en autonomie sur sa frontière, ils ont fait appel au régime qui les avait maltraités pendant de longues décennies, celui de Bachar el-Assad. La médiation s'est faite par la Russie, d'ailleurs dans la base militaire russe en Syrie, à Hmeymim, et pour le régime syrien, comme pour les Turcs d'ailleurs, la question qui est acceptée, c'est un déploiement des troupes syriennes sur l'axe Manbij-Kobani, donc sur une partie du territoire et non pas sur tout le territoire que contrôlaient les milices kurdes. Et l'offensive turque, dans ce cas-là, va se poursuivre dans d'autres axes, notamment Ras El Ain et d'autres localités. Ce n'est pas un déploiement dans une partie de cette zone-là.
Oui, c'est bien de le préciser, effectivement, dans une partie de la zone. Est-ce que ça signifie que les Kurdes ont dû faire des concessions en acceptant cette alliance avec le régime de Bachar el-Assad? Je vous pose la question parce que le haut commandant des FDS a parlé, lui, de compromis douloureux.
Exactement. Alors, les milices kurdes ou les forces kurdes ont fait deux compromis. Le premier, ils ne peuvent plus parler aujourd'hui de la même manière de l'autonomie qu'ils avaient imposée dans le passé. Et deux jours juste avant le déploiement des troupes du régime syrien, le vice-ministre des Affaires étrangères syriennes a qualifié les milices kurdes de traîtres qui voulaient diviser la Syrie territorialement. Donc, ils ont fait des concessions. L'autonomie n'est plus vu de la même manière. Ils ont essayé de négocier avec le régime la non-rentrée de ces troupes au sein des villes, mais qu'ils restent plutôt sur les autoroutes autour des villes, là où l'armée turque essayait de progresser, en essayant de préserver leur autonomie à l'intérieur des centres urbains. Mais même cela, le régime l'a refusé. Et ils ont trouvé un compromis comme quoi les milices kurdes et les forces du régime vont être déployées en même temps à l'intérieur des villes.
Ça veut dire...
Il y a une perte politique, certes.
Ça veut dire quoi, pour répondre à la deuxième question de Marius, que effectivement le régime de Bachar el-Assad va récupérer des territoires kurdes et il ne se retirera plus de ces territoires?
Oui, probablement. Là où il va être présent, au nord-est, notamment du côté de Manbij, il ne va plus se retirer, parce que là-bas, s'il est présent, c'est qu'il y a eu un accord entre Russes et Turcs pour faciliter son déploiement. Par contre, il n'a pas les moyens ni la capacité politique et militaire de récupérer tout le territoire. C'est grâce aux Russes et aux Iraniens que ce régime existe toujours. Ils l'ont sauvé militairement et ils l'ont aidé à récupérer une bonne partie du territoire du pays. Mais par rapport à l'Est, par exemple, là où il y a encore une présence kurde non menacée pour le moment, il n'y a pas de possibilité pour ce régime de récupérer. Les Américains n'ont pas abandonné les Kurdes à l'Est, spécifiquement à l'Est, parce qu'ils ne veulent pas que les Iraniens soient du côté de la frontière irakienne à travers le régime. Et puis il y a la région de Idlib qui est encore sous le contrôle de l'opposition, soutenue par la Turquie, qui n'est pas pour le moment récupérable. Le régime a été sauvé, mais il n'a plus les moyens de reprendre tout le pays, ni de le gouverner comme avant, sauf s'il y a un grand accord entre Russes et Américains qui sacrifie le reste du territoire en faveur d'un contrôle russe-iranien à travers le régime.
Merci infiniment de votre éclairage, Ziad Majed. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Marius, qui nous appelait d'Abidjan, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler votre dernier ouvrage, hein, Dans la tête de Bachar el-Assad, c'est publié aux éditions Actes Sud. Bonjour Bobby.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous avez des questions à nous poser sur le dossier Dupont de Ligonnès, du nom de l'homme le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès, qui est suspecté depuis 8 ans d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants.
Effectivement, j'aimerais revenir sur le fiasco de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a eu autour de cette arrestation, Monsieur Gomez, de l'emballement policier et médiatique. Donc à ce sujet, j'ai 2 petites questions. La première, j'aimerais savoir sur quoi la police écossaise s'est basée pour arrêter un faux suspect.
Ah.
Et ma deuxième question,
oui.
Il y a eu, en tout cas à ce que je cherche, une confusion sur les empreintes digitales du suspect. Donc j'aimerais savoir comment fonctionnent les comparaisons et les recherches sur les empreintes digitales.
On va tout vous expliquer avec Sylvie Coffi du service France. Bonjour Sylvie.
Bonjour Juan, bonjour Bobby.
Merci de nous rejoindre. Je replante très vite le décor. Nous sommes vendredi soir. De nombreux médias français annoncent l'arrestation en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès. On assiste alors à un emballement médiatique. Aux alentours de 00h30, le procureur de la République de Nantes évoque une suspicion sur les empreintes digitales. Et puis le lendemain matin, c'est la douche froide. Les expertises génétiques démontrent que l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Sur quoi s'est basée la police écossaise pour arrêter finalement ce faux suspect ?
Alors, tout est parti de la France par une dénonciation anonyme. Donc, l'homme en cavale était en partance pour Glasgow, en Écosse, où il devait rejoindre son épouse. La police française tente de l'intercepter à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il passe entre les mailles du filet, mais sous le coup d'un mandat d'arrêt international, les homologues écossais prennent le relais. Ils l'interpellent à la descente d'avion. Ils procèdent ainsi à la vérification de son identité passeport plus les empreintes digitales.
Et justement, d'où la question de Bobby sur les empreintes digitales. Expliquez-nous comment fonctionnent les comparaisons et les recherches sur les empreintes.
Alors, les empreintes digitales, c'est quoi? Donc, il y a un dessin qui est laissé par un doigt sur un support. On appelle ça des dermatoglyphes. Chaque empreinte est unique et chaque doigt a sa propre empreinte. La probabilité que deux personnes aient les mêmes empreintes digitales est très rare. Il y a une chance sur 64 milliards.
Ah oui.
Donc, pour valider l'identité d'une personne qui a été interpellée, comme c'est le cas ici dans cette affaire, les enquêteurs comparent l'empreinte actuelle avec celle qui est enregistrée précédemment. Donc, les policiers français ont déjà numérisé l'empreinte digitale du vrai Xavier Dupont de Ligonnès. Ils l'ont envoyé aux Écossais. Les Écossais ont pris les empreintes de la personne interpellée pour les comparer.
Alors, il faut dire qu'en France, on considère qu'il faut 12 points identiques pour être sûr que vous êtes réellement la vraie Sylvie Coffi ou moi, le vrai Juan Gomez.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les points? Ce sont donc des motifs. Donc, sur la pulpe du doigt, il y a des lignes, des bifurcations, des crêtes. Il faut donc qu'on retrouve un certain nombre de points identiques pour dire qu'il y a une concordance entre les deux personnes. Sauf que là, il y avait seulement 5 points identiques sur 12, donc il y avait des doutes.
Voilà pour les explications concernant les empreintes digitales. Je le disais, ce qui a mis fin à cet emballement médiatique, ce sont les résultats des expertises génétiques. Évidemment, la police a eu recours à l'ADN.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'ADN, pour être sûr à 100% qu'il s'agit bien de la personne, il fallait des analyses complémentaires. Et pour cela, ça a permis d'innocenter cet homme.
Voilà. A-t-on répondu à vos questions, Bobby?
Oui, mais ça va être une réponse complète. Si mademoiselle ou madame pouvait me dire, est-ce que l'innocent arrêté sera-t-il dédommagé? Est-ce que la loi prévoit une indemnisation pour réparer le préjudice causé par ce monsieur?
Avez-vous l'élément de réponse, Sylvie Coffi?
Donc en fait, c'est à lui d'engager les démarches, c'est-à-dire de prendre un avocat, mm-hmm, afin de demander des réparations pour le préjudice qu'il vient de subir. Et donc, c'est une procédure en justice qui peut être longue.
Pour l'instant, on ne sait pas s'il a l'intention d'engager ces démarches. Il ne s'est pas exprimé, d'ailleurs.
Non.
Hein, il a demandé aux médias de le laisser tranquille. On imagine le choc qu'il a subi vendredi soir en étant arrêté par la police écossaise à l'aéroport de Glasgow. Bobby, on vous souhaite une belle journée à Kai, au Mali, et merci de nous écouter
bonne
sur place.
Bonne journée
à vous, Sylvie Coffi, à bientôt.
À bientôt.
Il est 10h28 à Paris, on avait prévu d'autres questions, mais ce serait dommage de bâcler les explications de nos experts. Donc Médard, je sais que vous nous écoutez, vous êtes au standard déjà, mais Médard, on vous rappelle demain, c'est promis, on aura l'occasion de revenir sur le dialogue national qui s'est tenu dernièrement au Bénin pour essayer de sortir de la crise post-électorale. Donc on en reparlera évidemment demain avec notre expert. Il me reste donc une bonne minute pour vous rappeler, vous qui nous écoutez à Niamey, que nous serons dans la capitale du Niger lundi et mardi prochain. Nous serons au Centre culturel Oumaruganda pour 2 émissions en public. Lundi, nous débattrons de la prochaine élection présidentielle. Pour la première fois depuis l'indépendance, le Niger connaîtra une alternance pacifique. Autrement dit, un président sortant qui passera le pouvoir à un successeur élu. Toute la question et de savoir évidemment si les conditions sont réunies pour un scrutin incontestable. Et puis mardi, nous dresserons un état des lieux de la situation au Niger. Nous parlerons évidemment économie, développement, éducation, perspectives d'avenir pour les jeunes, pouvoir d'achat, mais aussi lutte contre le terrorisme. Donc venez nombreux dialoguer, débattre avec mes invités lundi et mardi à partir de 15h au Centre culturel Oumaruganda à Niamey. Et cerise sur le gâteau, sachez qu'Alain Focas fera également partie du déplacement, du voyage, vous aurez l'occasion d'assister aux enregistrements du débat africain. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après avec ce sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes des centaines à souhaiter réagir et commenter la candidature officielle de Guillaume Soro à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Évidemment, tout le monde s'interroge à savoir s'il a véritablement les chances de remporter ce scrutin. Vous nous direz quel est le poids véritable de Guillaume Soro sur la scène politique ivoirienne. 33 9 693 693 70. À dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité.